comprend qu'elle a besoin d'être aimée. Il lui faut des déclarations d'amour, c'est son moteur. Et Lelouch sait y faire. Il lui déclare son amour avec sa caméra. Il a compris pourquoi Jacques Prévert avait trouvé le pseudonyme de l'actrice, avec l'adjectif « aimé ». Et rassurée par l'amour que le regard de Lelouch lui porte, l'actrice lui fait le cadeau de son talent. C'est toutefois de Pierre Barou, qui joue son mari dans le film, que la belle Anouk tombera amoureuse lors du tournage. Ils s'épouseront au mois d'avril suivant. On pourrait d'ailleurs croire que Lelouch, lui aussi, tombe amoureux de son actrice. S'il la regarde à travers l'objectif de sa caméra, il la scrute aussi au microscope de ses fantasmes. Il se dit qu'elle est belle. Et quel sourire. La lumière, elle la capte. Il y a vraiment beaucoup d'amour sur ce tournage. Même la lumière de la côte fleurie est amoureuse. L'équipe est soudée. Tout s'accomplit merveilleusement dans un joyeux amateurisme. L'impresario des deux interprètes principaux a quand même exigé le versement des cachets avant le tournage. Il a refusé qu'ils soient payés en fonction des recettes du film. « Pas question, a-t-il affirmé, d'accepter une participation de la part d'un mec qui sort de si vide. Vous prenez vos 50 000 francs et retour à la maison. » Magnifique erreur de calcul. Trintignant se souvient du tournage. Ce fut une belle aventure. Le film a été tourné avec des moyens et un esprit amateur. Nous étions 6 ou 7 sur le plateau et chacun mettait la main à la pâte. Tantôt nous étions machinistes, tantôt nous portions des projecteurs. C'était du cinéma entre amis et cela me plaisait beaucoup. Nous avions vraiment l'image d'amateurs en train de s'amuser. En réalité, c'est du cinéma moderne sur un sujet très ancien. Durant ce tournage de bonheur, Lelouch commence à croire en Dieu. Il le dit. J'étais juste son stagiaire. Et c'était lui qui faisait le film. Les dieux du cinéma sont avec Lelouch, c'est évident. Le bulletin météo aussi. Quand il tourne la scène de la Ford Mustang de Trintignant sur la plage de Deauville, il retrouve la même lumière irisée de son souvenir. Comme s'il marchait encore sur le sable de son inspiration. Mais c'est Lelouch, et non les dieux, qui va imposer sa manière de diriger ses acteurs. Phénoménal, pense Trintignant. D'ailleurs, pour le metteur en scène, il ne s'agit nullement de diriger. Trintignant découvre la manière inédite de Lelouch pour tirer le maximum de ses acteurs. Très souvent, ni Anouk, ni lui, ne connaissent les répliques ou les questions de l'autre. Ainsi, Lelouch prend Jean-Louis à part et lui dit « Puisque vous venez de vous rencontrer, tu vas lui parler de son mari, lui demander ce qu'il fait. Anouk ignore donc ce qu'il va lui demander et Trintignant ne sait pas ce que sa partenaire va lui répondre. » Ce jeu d'improvisation, de récréation du rôle, convient parfaitement à l'acteur. L'actrice est moins complice, moins généreuse, plus discrète. Elle est plus fermée sur elle-même. Mais cela finit par l'enrober de mystère et par lui donner une aura touchante. Cette liberté de dialogue fonctionne encore mieux avec les deux enfants. Dans les scènes où ils interviennent, ils ont une fraîcheur, une invention, un enthousiasme plus spontané que les adultes. Et comme Lelouch filme en toute liberté, il n'impose pas les déplacements à ses acteurs. Pas de traces sur le sol pour leur indiquer d'où ils partent et où ils doivent s'arrêter. Non. Non, tous les gestes sont spontanés. Ils sont inventés sur le moment. Trintignant apporte ainsi au film une énergie prodigieuse que Lelouch, avouera-t-il, ne rencontrera plus jamais dans ses autres films. Reste maintenant à filmer l'univers de son personnage masculin. Jean-Louis, dans le film, est pilote de circuit et de rallye. Lelouch s'est douté que ça plairait à l'acteur, qu'il accepterait plus volontiers de jouer dans le film. L'automobile est une de ses passions. Son oncle, Maurice, a été un des grands champions de son époque sur Ferrari, Lotus et Bugatti. Jean-Louis a commencé plus tard, à 40 ans, sur voiture de tourisme très améliorée, avec Beltoise et Lafitte. Il a couru les 24 heures du Mans, là où, au bout de la ligne droite des Hunaudières, on est à 350 km par heure. Puis, on négocie le virage très serré, à 60 km par heure. C'est là que Trintignant, en 1981, sera victime d'un grave accident, comme s'il redevenait son personnage d'un homme et une femme. Il a également couru 6 fois le rallye de Monte-Carlo. Et c'est lors de l'épreuve de janvier 1966 que Lelouch réalise l'autre partie de son film. L'acteur et son copilote, Henri Chemin, feront réellement la course. Mais Lelouch, lui, monte derrière et filme avec sa petite caméra 16 mm. Ballotté, le ventre serré par la vitesse, il encaisse les virages pris à la corde, les trajectoires périlleuses, les glissades sur la neige. Il filme tout. Bien entendu, il n'a pas demandé à la direction de course l'autorisation de filmer dans la voiture. Pas plus qu'il n'avait l'accord de la municipalité de Deauville pour filmer la Ford Mustang numéro 184 de Trintignant qui slalome sur le sable de la plage. Avec ses maigres moyens et son matériel réduit, Lelouch, pas si inaperçu, s'insinue partout. Comme dans la dernière scène du film, quand Trintignant attend Anouk Aimé qui va descendre du train à la gare Saint-Lazare. Lelouch est là, avec sa caméra, sur le quai, dans la foule. Une fois encore, il ne s'est pas préoccupé de solliciter le feu vert de la SNCF. Trois semaines de tournage, 3 semaines de montage et l'apport de l'essentiel pour Lelouch, la musique de Francis Lai, qu'il a enregistrée avant de tourner son film. C'est un acteur essentiel pour lui. Cela s'est passé comme ça se passera à chaque film. Il va chez le musicien, lui raconte le film tout en marchant, lui demande d'écrire un type de musique par séquence. Quand il lui raconte une scène, il demande à son ami Francis de la lui raconter, mais cette fois avec des notes, avec des mélodies. Pour Lelouch, le film repose sur un inconscient, ce que la musique doit amplifier. Et puis, il y aura la mélodie, mythique, chantée par Nicole Croisy et Pierre Barrault, qui fera un tube. Le montage, images et son terminés, Lelouch se retrouve à nouveau face à un épineux problème. Il lui faut un distributeur. On se souvient que le producteur, Pierre Brunberger, a refusé de produire le film. Il regardera distraitement le film monté. À sa sortie, Lelouch lui avoue « Je suis dans la merde. Si vous me donnez 200 000 francs, je vous cède 50% du film. » Refus de Brunberger. Heureusement, une rencontre fortuite sur les Champs-Élysées va sauver Lelouch. Il croise le producteur Bob Hamon. Lui avoue qu'il a le couteau sous la gorge. Il doit rembourser ses traites. Il est à nouveau en faillite. Il ne sait vers qui se tourner. Les banques le boudent. Il n'a pas de distributeur. Bob Hamon, lui, a du flair. Il lui octroie 50 000 francs à condition de visionner le film. Quand il sort de la projection, il est en larmes. C'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Il n'arrive même pas à canaliser ses émotions. Aussitôt, il appelle un ponte des artistes associés en lui disant « Je viens de voir un chef-d'œuvre. Il fera le tour du monde. Il bouleversera la terre entière. Viens vite. » Le ponte déboule à la salle à 11h du soir. À 1h du matin, il ressort, lui aussi bouleversé. Entre 6h du soir, où Lelouch était en faillite, et 2h du matin, où on lui offre 500 000 dollars en minimum garantie, on peut dire qu'il a traversé un cauchemar. Le reste enflamme l'imagination. Le film passe à la commission pour défendre la France au Festival de Cannes en 1966. Il est accepté à l'unanimité. Lelouch croit que son cœur va exploser. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Producteurs, distributeurs, journalistes, ils veulent tous voir le film. Les artistes associés déprogramment d'autres titres pour se centrer uniquement sur un homme et une femme. À Cannes, Lelouch assiste à l'enthousiasme du public lors de la projection. C'est même un peu trop de pression pour lui. Avec sa petite bande, il va se planquer dans un petit hôtel de Saint-Tropez. Ils ont beau entendre les rumeurs de Grand Prix, ils préfèrent ne pas y croire. Mais des reporters de Paris Match arrivent à les repérer. Ils veulent photographier Lelouch comme s'il venait de recevoir la nouvelle de sa victoire. Superstitieux, il refuse. Il veut bien faire semblant d'attendre les résultats, mais pas plus. Mais si Paris Match le traque, c'est que l'impossible est peut-être possible. Oui, il est même réel. Lelouch remporte le Grand Prix du Festival de Cannes, l'appellation Palme d'Or ayant été abandonnée entre 1964 et 1974. Jules Dassin et Mélina Mercouri sortent de la salle émus et prennent Claude Lelouch dans leurs bras en pleurant. En France, un homme et une femme va afficher complet dès la première semaine. Il restera à l'affiche un an. Le film échappe même aux attentes de Lelouch. À Cannes, à part le Grand Prix, il obtient le prix de l'Office catholique du cinéma et celui de la Commission supérieure technique du cinéma pour la photographie. En 1967, il sera récompensé aux Oscars américains comme meilleur film étranger et pour le meilleur scénario. Toujours aux États-Unis, Lelouch reçoit le Golden Globe pour le meilleur film étranger, avec un autre Golden Globe pour Anouk Aimée, meilleure actrice. En tout, 39 autres récompenses internationales. Le film aura même un impact sur le tourisme en Normandie. Dès sa sortie jusqu'à aujourd'hui, de nombreux visiteurs séjournent à Deauville grâce au film. Ils veulent faire coïncider les images de Lelouch et la musique de Francis Lai avec la plage et les planches de la station à la mode. Ils veulent surtout découvrir Deauville, non pas à la période estivale, mais en hiver, comme dans le film. La ville dans le gris devient une destination romantique. Des couples viennent y jouer le même rôle que les interprètes sur la plage. On baptisera Place Lelouch, l'endroit où, face à la mer, le réalisateur a promené sa caméra à l'hiver 1965. Beaucoup de séducteurs qui voudront faire rêver une fille l'embarqueront en Porsche ou en deux chevaux pour un week-end à Deauville. Et quand les vedettes viendront plus tard au Festival du cinéma américain de Deauville, elles auront un repère, la ville où a été tourné le célèbre film. Car un homme et une femme aura un succès planétaire. 4,2 millions de spectateurs en France, 36 millions dans le monde. 2h27 de tendresse et de bonheur pour tous les publics. Certes, il y aura des partisans et des détracteurs. On aimera ou on détestera, on condamnera même. Mais des millions de gens chanteront la bande originale du film. Beaucoup reconnaîtront que Lelouch a réinventé la plus vieille histoire du monde. Un homme et une femme, quoi de plus banal. Mais avec sa jeunesse, son lyrisme et sa liberté de filmer, Lelouch a effacé les poncifs. Et la rédactrice du magazine Elle aura raison de rappeler dans son article que Balzac avait raté 25 romans avant d'écrire Les Chouans. Le cinéaste est comblé. Gagner à Cannes, c'est la manne exceptionnelle en termes de notoriété, de distribution internationale et donc de recettes. Maintenant, il pourrait pousser la porte de n'importe quel producteur et lui proposer l'histoire d'un type qui dit bonjour. Le producteur lui répondrait « Mais c'est génial, combien ?» Lelouch, désormais, peut croire en sa bonne étoile. Et il va enchaîner les films, certains dispensables et d'autres qui seront des réussites exceptionnelles, comme Vivre pour vivre, avec Montand et Girardot, le désopilant L'aventure c'est l'aventure, Les uns et les autres, avec Jorge Don, dansant le boléro, ou encore Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo. Il a désormais son avenir en main, mais il n'a qu'un seul regret. Il ne saura jamais qui était cette femme qui se promenait à 6h du matin sur la plage vide de Deauville. Il lui a donné une vie qui n'était peut-être pas la sienne. Suite au succès mondial du film, le réalisateur essaiera de lancer un appel sur les médias pour la retrouver, la connaître, la remercier, mettre un visage sur ce qui ne fut qu'une silhouette dans la grisaille d'un petit matin, mais en vain. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Je continue à passer toutes les routes de la porte, monsieur le ministre.